Uno, dos, one, two, tres, cuatro.
Voici le troisième épisode de ma série consacrée à l'année 1963. Au programme, la première femme dans l'espace, la délinquance juvénile en augmentation, le ciel de Paris bien triste pour la môme, et fou rire garanti avec Dalida pour le jeu des gages.
1963, Ondelatte raconte sur Europe 1.
Mi-juin 1963, une femme fait beaucoup parler d'elle. C'est une soviétique, Valentina Tereshkova. Elle s'apprête à devenir la première femme dans l'espace.
Monsieur Chauvin, vous êtes technicien de la NASA. J'aimerais savoir si, en tant que technicien de la NASA, vous pensez que les femmes peuvent faire comme les hommes et devenir cosmonautes.
Oui, je pense que la femme peut faire le vol si elle peut survivre aux difficultés du vol.
Est-ce que vous pensez donc qu'une femme est capable de faire comme un homme un entraînement très dur au point de vue physique et qu'elle est capable de supporter la fatigue nerveuse qui est normale au moment d'un départ de fusée?
Physiologiquement, il n'y a pas de raison que la femme ne peut pas faire le vol.
On est d'accord. Mais les femmes alors, les femmes de 1963, elles sont partantes ou pas?
Mademoiselle, si vous aviez l'occasion de partir comme un cosmonaute dans l'espace, est-ce que vous iriez ou est-ce que vous n'iriez pas?
Si j'avais reçu l'entraînement, oui, bien sûr.
N'auriez pas peur?
Un petit peu, si, certainement.
Et pourquoi voudriez-vous partir?
Pour voir ce qui se passe, mais j'aurais surtout peur de ne pas descendre.
Oh, je serais enchantée. J'appartiens à l'armée de l'air, alors je représenterais la France. Ce serait la moindre des choses.
Non.
Pourquoi?
Parce que j'ai peur.
Le 16 juin 1963, alors que la cosmonaute soviétique est dans l'espace, les radios diffusent un message inaudible de la jeune femme. Et puis le son s'éclaircit un peu, et l'interprète peut retranscrire ses propos.
Ici la mouette. Je vois l'horizon par le hublot de droite. Une bande bleu clair s'étend à partir des nuages brillamment éclairés. Et plus loin, une bande d'un bleu intense. Je vois la Terre. Les surcharges croissent. Tout va bien, tout va bien. J'userai de toutes mes forces et de toutes mes connaissances pour accomplir mon vol avec succès.
Le séjour de Valentina Tereshkova dans l'espace, 2 ans seulement après voyage de Yuri Gagarin, émeut femme du monde entier. Interrogée dans les rues de Paris, elle ne cache pas leur admiration.
Je voudrais savoir ce que vous pensez de Valentina Tereshkova, qui est la cosmonaute soviétique qui tourne déjà...
Bon. Eh bien, moi je trouve que c'est magnifique, c'est un exploit qu'aucune femme jusqu'à présent n'aurait osé, évidemment. C'est très bien.
Est-ce que si vous en aviez eu l'occasion, vous auriez fait la même chose?
Oh, maintenant je suis trop âgée. Du temps de ma jeunesse, on perd les potes de ces choses-là.
C'est un exploit que j'aurais bien aimé accomplir.
Je ne dis pas que je voudrais être à sa place parce que j'aurais peut-être pas le courage, mais je trouve admirable qu'une femme fasse ça. Et je dis carrément que je suis féministe et que je trouve admirable que les femmes soient capables de faire ce que font les hommes.
Ouais, c'est très bien. C'est pour elle, net pour moi.
J'aurais bien été à sa place.
C'est quelque chose de fantastique et je me demande jusqu'où ira le progrès.
C'est la place d'un homme, c'est pas la place d'une femme.
Je trouve que c'est extraordinaire. Ça devait arriver un jour.
Je trouve qu'elle a beaucoup de courage.
Est-ce que si vous aviez été à sa place, vous auriez fait la même chose?
Je pense pas. Là.
Pourquoi?
Parce que je tiens à ma vie.
Mais pour cette infirmière que vous allez entendre, il ne faut surtout pas en faire un exploit au féminin. Et voici la raison.
Je considère que venant après tant de cosmonautes, elle n'a pas tellement de mérite. Évidemment. Si elle avait été la première, on aurait pu en faire une histoire, mais alors là, vraiment, ça n'a pas d'intérêt spécial. Ça a surtout un intérêt du fait qu'elle va vraisemblablement se rencontrer avec le cosmonaute qui est déjà en train de tourner.
Le fait que ce soit une femme n'a pas
aucune importance. Elles sont aussi solides que les hommes. Je suis infirmière, j'en sais quelque chose.
5 mois plus tard, c'est au tour de la France d'organiser un voyage dans l'espace. Mais cette fois, il ne s'agit pas d'une femme ni Tandom. Il s'agit d'une chatte, une dénommée Félicette. Le 18 octobre, Félicette s'élance donc depuis la base de Colombéchar dans le Sahara algérien.
Les autres envoient des hommes. Est-ce que ça ne fait pas un peu mesquin d'envoyer simplement des animaux ?
Non, parce que nous voulons faire certaines expériences de physiologie. Nous étudions actuellement l'orientation et l'équilibration dans l'espace. Nous voulons les étudier sur des animaux successivement de plus en plus importants, mais des animaux dont nous connaissons parfaitement le cerveau et les réactions cérébrales.
Dès les premières minutes, l'expérience menée avec Félicette s'avère être un succès.
3, 2, 1, 2. Et c'est le tir d'une fusée Véronique emportant une petite chatte nommée Félicette.
2 minutes, 100 kilomètres.
L'expérience en l'air confirme celle du sol. L'animal est parfaitement calme. On envoie, comme au laboratoire, une impulsion par radio et le cerveau réagit normalement. Que les âmes sensibles ne s'émeuvent pas, Félicette est si bien entraînée que son équilibre électrique, sa respiration, son pouls, rendu visible sur l'oscillographe, ne varie pas. On l'a bien choisi, Félicette, car la moindre réaction de terreur, de crainte, l'eût fait éliminer. Les signaux reçus auraient été illisibles.
Reste maintenant à envoyer un homme sur la Lune. Le président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, en fait la promesse. Et pour Albert Ducrot, le spécialiste scientifique d'Europe numéro 1, c'est pour bientôt.
L'homme vers les planètes, cela viendra, mais pas dans l'immédiat. Et avant qu'il soit question d'aller sur les planètes, la Lune devra évidemment constituer le premier objectif des engins habités. Apparemment, l'homme en est encore loin. Il ne s'est pas élevé à plus de 327 km au-dessus de la Terre. Toutefois, on peut considérer que le plus difficile maintenant a été fait. En effet, une satellisation exige 8 km/s. Or, depuis une orbite proche de la Terre, les voyages en direction de la Lune et des planètes exigent seulement des impulsions de 3 à 4 km/s.
Europe 1, on de la traconte, l'année 1963.
Don't make me over. Now that I do anything for you. Don't make me over.
C'est la chanteuse américaine Dionne Warwick avec Don't Make Me Over en 1963, le premier single de toute sa carrière.
Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
En 1963, ce qu'on appelle la délinquance juvénile est en augmentation. C'est en tout cas ce que disent les médias. Dans la capitale, ce sont les blousons noirs qui, dans des expéditions punitives, sèment la terreur. C'est ainsi qu'au mois de juin, une bande débarque chez un Parisien de 40 ans pour lui régler son compte.
C'est ici, dans cet appartement, que les choses se sont passées. Hier soir, 20 ou 25 jeunes gens, ceux que dans le quartier on appelle les blousons noirs, sont arrivés ici, chez vous, et vous ont frappé.
C'est exact, oui. Ils ont fait fracture à la porte, ils ont démoli la porte et tout. Je m'y suis battu, quoi. Je suis tombé par terre, puis ils ont lancé un coup de pied au ventre à mon chien, quoi.
Eux, on les appelle des blousons noirs.
Des blousons noirs, oui, il y en a un qu'on l'appelle Adra, le serpent.
Les journalistes parviennent à identifier l'un des agresseurs et à l'interroger. Le gamin reconnaît l'agression, mais il se défend d'être un blouson noir.
L'un des jeunes garçons de cette opération punitive, je l'ai retrouvé dans le même quartier. Pourquoi cette opération ?
Parce que Jamel, il tape tout le monde, puis il se prend pour un gangster.
On dit dans le quartier, c'est Al Capone. C'est lui qui le dit ou c'est vous ?
C'est lui qui le dit, comme l'autre fois mon frère. Il était dans l'escalier à un autre. Et puis il est arrivé derrière lui avec un couteau.
Vous savez que ce que vous dites, c'est assez grave tout de même, c'est des accusations.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Même une autre fois, je me suis rappelé maintenant, une autre fois, il nous a couru après moi, Bio, et puis mon frère Jackie, il nous a couru après avec un couteau.
Vous avez quel âge ?
Moi j'ai 14 ans et demi.
Dans le quartier, on dit de vous aussi, ce sont des garçons qui sont pas très sages. On dit, quelquefois, ce sont des blousons noirs.
Bon, parce qu'on reste en bas et puis qu'on fait un peu de bruit.
Vous savez que la police peut vous causer quelques petits ennuis aussi. Avoir cassé une porte, c'est violation de domicile.
On a tapé la porte.
Ah ben, vous avez tapé fort quand même.
On n'est pas rentré, on a tapé la porte, c'est pas pareil.
Non, vous avez tapé fort sur la porte. Parce que la porte, elle est en assez mauvais état. Hein.
Bah oui, pour moi, on a tapé la porte, on n'est pas rentré, il n'y a pas de violation de domicile pour moi.
Et puis il y a du sang dans l'appartement.
Oh ben c'est dingue là, hier j'ai vu un copain, il m'a dit qu'il s'était coupé les montées là-haut.
Qu'est-ce que vous faites toute la journée par exemple ?
Qui, moi ? Oui. Moi ? Ben je reste chez moi, j'ai ma mère un petit peu.
Vous n'allez pas à l'école ?
Non.
Cette même année, 1963, un adolescent de 15 ans est blessé par balle à la sortie d'un cinéma. Sauf que cette fois, c'est l'agressé qui fait partie des délinquants et pas l'agresseur.
Les jeunes ont prétendu que le monsieur qui avait tiré... qu'il était sous, hein, qui était sous et qu'il avait tiré 3 coups de revolver. Et c'est la deuxième balle qui atteint le jeune homme, quoi. C'était une bande de, je sais pas, une dizaine de gosses de 14 ans à 17 ans.
Mais c'est ce qu'on appelle des blousons noirs ou des jeunes
Non, ce sont pas exactement les blousons noirs, ce sont des petits jeunes, quoi. Ils cherchent un peu la noise, quoi, c'est tout. Et d'après eux, c'est le bonhomme qui était voulu, qui était sous. Et ensuite, le deuxième son de cloche, c'est que le monsieur n'était pas sous du tout. Hein, ce sont les jeunes qui l'ont embêté, qui l'ont taquiné, qui lui ont jeté des pierres, paraît-il. C'est de là que le monsieur, qui était peut-être assez susceptible, a sorti une fois de chez lui.
Hein, il habite juste à côté de chez
vous. Ah oui, il habite à côté de chez moi, c'est-à-dire à 50 mètres. Quoi. Alors je suppose qu'ils l'ont déjà embêté, déjà à la soirée du cinéma.
Puis ensuite, à la sortie, ensuite, ils l'ont suivi.
Oui, ils l'ont suivi. Ils l'ont taquiné. Alors je vous dis maintenant la vérité où elle est.
Mais la délinquance juvénile n'est pas un phénomène parisien. En province aussi, elle sévit. Comme ici à Metz, à tel point que la police doit prendre des mesures et faire appel à des renforts.
Pourquoi cette opération salubrité publique à Metz, monsieur le commissaire divisionnaire ?
Eh bien, depuis quelque temps, j'étais alarmé par la recrudescence de la délinquance la nuit dans l'agglomération messine. De son côté, l'opinion publique était inquiète. J'en ai parlé à monsieur le préfet et avec son accord, j'ai obtenu le concours de la CRS 61 de Reims que j'ai répandu depuis samedi dernier toutes les nuits à Metz.
Quels ont été les résultats pratiques de cette opération ?
Eh bien, les résultats pratiques sont les suivants, je vous donne des chiffres. 7337 personnes ont été contrôlées et passées dans les fichiers. Dehors, 3151 véhicules ont été contrôlés. 181 personnes ont été amenées au commissariat central et ont fait l'objet d'informations diverses, parmi lesquelles on a retenu 36 personnes avec arrestation définitive, dont on trouve 16 pour vol qualifié et pour agression. Le résultat probant actuellement, c'est que depuis samedi dernier, il n'y a presque plus d'agression, il n'y a plus d'agression et il n'y a presque plus de vol.
À la fin de l'année 1963, ça se confirme, des études prouvent que la délinquance juvénile est bel et bien en augmentation.
Un congrès réunit en ce moment à Strasbourg des spécialistes
étudiant la criminologie et la délinquance juvénile. Ces spécialistes viennent de prouver que la délinquance chez les jeunes est en nette progression, est en nette recrudescence.
Mais alors, quelle en est la raison ? Si on tend le micro aux Français cette année-là pour savoir qui est responsable, voici ce qu'ils disent.
Les jeunes, surtout entre 14 et 18 ans, qui ne sont pas assez surveillés par les parents, ils ont un peu trop de liberté à mon avis, et ils fréquentent beaucoup les cinémas.
Il y a des jeunes qui ne peuvent pas se permettre, que d'autres jeunes ils peuvent se permettre, alors ils cherchent quoi, une solution.
Tout le monde veut devenir plus ce qu'ils sont, veut devenir artiste, veut devenir fif, veut devenir tout.
Ils ont leur idole, Hallyday et d'autres, et puis alors dans chaque jeune chant, il y a un petit Hallyday qui dort et qui sommeille, et puis alors il croit, pourquoi pas moi, parce que c'est tellement facile à gagner de l'argent. Alors eux qui sont obligés de travailler et à gagner quelques sous par jour, la différence est trop grande.
Eh bien, la lecture des romans de séries noires, la jeunesse étant souvent livrée à elle-même, étant donné que les parents sortent travailler, et puis les films de gangsters.
Et regarde un peu, c'est eux qui vient. C'est la plus belle de tout le quartier. Et mon plus grand désir, c'est de lui parler. Elle la guiche mes amis, même les plus petits. Pourtant pour elle, je n'ai pas l'impression d'exister. Mais tout ceci ne m'empêche pas de penser. Cette fille-là, mon vieux, elle est terrible. Et regarde un peu, cette voiture. On la dirait vraiment faite pour moi. Et il doit faire bon rouler avec ça. Et la chose que je pense, c'est plus de l'essence. Je perds subitement l'envie de me la payer. Ah mais tout ceci ne m'empêche pas de penser. Cette voiture-là, mon vieux, elle est terrible. Attends un peu, à que je travaille. Quand je pourrais me la payer content. J'inviterai la belle fille à monter dedans. La capote baissée sans trop nous presser. Ah, nous descendons les Champs-Élysées. Et les copains nous voyons passer des romains d'usine. Y'a pas à dire ce gars-là, ouah, il est terrible. C'est beau de rouler en rêvant. Voilà que j'arrête ma vieille Citron. Et j'ai bonne mine devant la belle maison de celle que j'aime, les poches à plat. Ouais, pourtant si elle m'embrasse rien qu'une fois, je dirais certainement en parlant de moi. Y'a pas à dire ce gars-là, ouah, il est terrible.
C'était Johnny Hallyday avec « Elle est terrible » que l'idole des jeunes interprète la toute première fois à l'Olympia, avant même de l'enregistrer.
Ondelat raconte, Christophe Ondelat.
En mars 1963, à la fin d'un tour de chant, Édith Piaf entre à l'hôpital pour des troubles pulmonaires. Mais son compagnon Théo Sarapo se veut rassurant.
Bah, Edith va beaucoup mieux, c'est-à-dire qu'elle a eu cette fameuse bronchite qui s'est déclenchée à Bobino, et puis qui ne s'est jamais arrêtée, c'est-à-dire elle s'est soignée, elle était un peu guérie, puis on a refait une tournée, elle a réattrapé froid. Alors finalement on est venu à cette clinique pour qu'elle soit soignée beaucoup mieux qu'à la maison.
Bien, depuis quand est-elle en clinique?
Ben, nous sommes ici depuis 48 heures à peu près. Je crois que dans 2 ou 3 jours, on va pouvoir sortir.
Bon, on lui fait quoi? Des analyses, des prélèvements?
On lui fait un peu de tout, quoi. Des analyses, des radios, de façon...
Bon, on a parlé d'intervention chirurgicale.
Ah, c'est absolument faux. Il n'y a absolument aucune intervention chirurgicale. Heureusement, Dieu merci d'ailleurs.
Une fois sortie de l'hôpital, Édith Piaf part se reposer sur la Côte d'Azur, où Europe numéro 1 parvient à la joindre par téléphone.
Vous pouvez me dire un petit peu le temps qu'il fait, comment ça se passe?
Il fait pas très beau.
Vous êtes à quel endroit?
À Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Et il fait pas beau?
Ben aujourd'hui, non.
Et l'ambiance, c'est quoi? C'est la grande foule, c'est...
Pas encore, non. Vous savez, je suis en convalescence, alors je prends beaucoup de précautions, je ne sors pas encore. Enfin, je vais bientôt sortir. J'attends le retour de Théo, et puis là, peut-être, je sortirai un petit peu.
Il fait pas froid quand même?
Non, non, ça va pas jusque là.
Est-ce que les gens se baignent d'après ce que vous avez pu savoir?
Ah oui.
Et vous, ça va bien?
Moi, très très bien. Je me remets tout doucement.
Vous rechanterez quand?
Eh bien, je pense à partir du 27 juillet.
Où?
À Saint-Raphaël.
Mais Edith ne se produira pas à Saint-Raphaël, ni même ailleurs. Car 2 mois et demi après cet entretien téléphonique, la môme rend son dernier souffle. Elle avait 47 ans. Sa secrétaire raconte.
Madame Bonnel, vous êtes la secrétaire d'Edith Piaf. Vous étiez à ses côtés à Place Cassier. Vous avez été les témoins de ses derniers instants. Qu'est-ce qui l'a amené à quitter brusquement Grasse hier?
Nous avons pensé qu'elle était très mal. Et je me trouvais seule là-bas avec elle et son infirmière. Nous avons demandé à M. Barillet et à son mari, M. Sarapot, de venir tout de suite et puis de décider. Et comme elle était vraiment très mal, nous avons pensé, avec les docteurs, du reste, que le mieux c'était de la ramener tout de suite à Paris, s'il y avait une chance.
Et est-ce qu'elle avait conscience de la gravité de son état?
Non, jusqu'à temps, enfin, de perdre conscience complètement, c'est-à-dire de rentrer dans cet état comateux. Elle ne donnait pas l'impression. Au contraire, nous avons fait les projets 2 jours avant. Nous avons entendu le disque de Carnegie Hall, toutes les deux, et elle m'a dit « Oh, nous avons encore de beaux voyages à faire ». Elle ne se rendait pas compte, je crois pas.
À l'annonce de la mort d'Edith Piaf, Europe numéro 1 envoie immédiatement un reporter dans le quartier parisien de Belleville, où Edith a grandi. Là-bas, tout le monde la connaissait.
C'était une malheureuse, mais elle était très sympathique.
Vous aviez des disques d'elle?
J'en avais, oui. C'est mes petits-enfants qui les ont maintenant.
Quelle est votre chanson favorite d'Edith Piaf?
J'aimais bien Milord.
Moi aussi, j'aimais bien Milord aussi.
Je crois qu'elle est née vers le 75 de la Lugien-la-Croix, dans l'ambulance qui l'emmenait en 1918, je crois.
Et vous croyez que les jeunes de Belleville savent qui est Edith Piaf et ce
garde? Oh, bien sûr.
Quand on connaît Edith Piaf comme on connaissait Maurice Chevalier.
Elle avait un drôle de coffre.
Quand elle est passée dernièrement à l'Olympia, là. Oh, c'était merveilleux. Il faut dire que la chance est en deuil, là.
C'est une perte énorme.
Et Yves Montand, qui doit ses débuts au musical à Piaf, raconte lui aussi son Edith.
C'était un être assez exceptionnel pour qu'on puisse au moins l'aimer profondément. Et, mais surtout, ce que je voudrais vous dire, je ne voudrais pas du tout rester sur une question, sur une chose mélancolique ou triste, parce que ça va comme ça. Je pense que les auditeurs, aujourd'hui, ils ont leur dose. Je voudrais simplement vous dire qu'on s'est beaucoup marré. On a beaucoup ri, je l'ai fait beaucoup rire, vraiment aux éclats, je l'ai vue malade de rire, hein, me suppliant d'arrêter parce qu'elle riait trop. C'est ce souvenir-là que je veux garder d'Edith. C'était une fille extrêmement drôle, probablement parce qu'elle chantait toujours des choses tellement profondes et tellement quand même tristes dans l'ensemble de son répertoire sur la scène qu'elle éprouvait le besoin ensuite après d'être vraiment au maximum de la drôlerie et de la mystification.
Le jour des obsèques, boulevard Lannes à Paris, là où habitait Edith, autant vous dire que c'est l'affluence.
Avant ce soir, plus de 80 000 personnes auront rendu un dernier hommage à Edith Piaf. Plus de 80 000 personnes qui auront défilé devant le cercueil de la grande chanteuse dans la bibliothèque du 67 boulevard Lannes. Je suis au milieu de cette foule. Beaucoup plus de femmes que d'hommes. Des gens habillés simplement, mais aussi des gens aisés. Beaucoup ont amené des fleurs qui s'accumulent devant l'entrée. Pour que ces fleurs ne soient pas écrasées, les gens les tiennent au-dessus d'eux, à bout de bras. La foule est contenue par des barrières qui s'allongent sur plus de 500 mètres. Mais par endroits, les barrières ont cédé. Le service d'ordre a été débordé par les gens qui voulaient approcher. Il y a même eu des coups échangés.
Et parmi les dizaines de milliers de personnes présentes, beaucoup sont en colère, car l'Église catholique a refusé à Piaf des obsèques religieuses, en raison de sa vie privée tumultueuse. Ce qui n'a pas été le cas pour son ami Jean Cocteau, décédé un jour après, et dont la vie, elle, n'a pas été sage non plus.
Je suis venue voir Edith Piaf pour réparer un peu l'injustice qu'il y a vis-à-vis de entre Jean Cocteau et elle. Et Edith Piaf, c'est toute une époque.
Pourquoi parlez-vous d'injustice?
Parce que Edith Piaf, elle ne sera pas enterrée à l'église et Jean Cocteau y est.
Elle a raison, la dame, c'est honteux, l'église est ouverte à tout le monde. Oui. Je ne vois pas pourquoi on l'ouvre pas à Edith Piaf. Il y a des criminels qui y passent à l'église. Oui. Elle n'a jamais tué ni volé.
Elle a fait que le bien, c'est une femme hors mérite.
Pourquoi êtes-vous venue, madame, ce matin?
pour rendre un hommage à Edith Piaf, et puis c'est une femme qui a fait que du bien.
Vous venez de loin ?
De Saint-Denis.
Qu'avez-vous ressenti en pénétrant dans cette maison ?
Oh, j'avais l'estomac drôlement serré. Hein.
Papy t'a dit au revoir.
Pourquoi vous la connaissez ?
Très intimement, depuis qu'elle était toute petite.
J'ai toujours suivi à Marseille, et puis je l'ai vu débuter en 38.
Jusqu'à son mariage, je lui ai donné une croix, elle m'a embrassée. J'étais intime avec elle. Son mari m'a embrassée, tout. Je l'ai vu, je suis contente.
Au moment de l'inhumation au cimetière du Père-Lachaise à Paris, il y a 40 000 personnes dans le cimetière. Tous ont pu rentrer, mais très vite, il s'avère que le cimetière est beaucoup trop petit.
Restez pas là avec les... Mais oui, mais c'est pas besoin avec cet enfant, madame, voyons. Avancez, comment ? Vous avez une carte ? Alors ?
L'émotion se mêle à la confusion. Ça se bouscule. Ça s'insulte.
Encore par ici. Où sont encore ?
Vous avez tous écrit pour faire un chemin, une double haie, afin de permettre de porter le cercueil d'Édith Piaf. Des milliers de gens massés, agglutinés dans les allées du Père Lachaise, grimpés sur les caveaux, sur les tombes. Maintenant, la famille va bénir pour la dernière fois le cercueil d'Édith Piaf.
Après l'inhumation, la famille et les proches se retirent. Et là, c'est le délire.
Est-ce que vous avez vu des évanouissements ?
Oui, oui. Nous avons vu une petite vieille qui s'est évanouie, puis une jeune fille qui a eu la main écrasée.
Une dame se penchait tellement dans la fosse qu'elle a failli tomber. Et je l'ai retenue par le manteau.
Le Français est vraiment mal discipliné, piétiné sur les tombes, les fleurs offertes à Édith Piaf. C'est vraiment dégoûtant, ça. J'étais vexé parce que ça aurait pu être tellement bien avec Édith Piaf. Elle était tellement gentille vis-à-vis de tout le monde, il fallait quand même un peu de respect pour ses cendres.
Édith voulait la foule, elle l'a eu quand même.
Édith Piaf s'en va, emportée par la foule. Et à la sortie du cimetière, Maurice Bruzek, reporter d'Europe numéro 1, ne rencontre que des Parisiens effarés.
Ça a été une horreur vraiment parce qu'ils ont piétiné les couronnes. C'est inadmissible qu'on piétine des couronnes comme ça, écoutez. Les gens se bousculaient, des cris, tout ça, c'était terrible.
J'ai trouvé que c'était tout à fait ridicule qu'il y ait eu tant de foule de se bousculer pour une chose pareille. Quoi. C'est ridicule d'avoir laissé entrer tout le monde.
La conduite de la foule a été déchaînée.
Ah ben alors, il y en a qui c'est tout de même pas bien parce qu'ils montent trop sur les tombes.
Les gens montent sur les tombes, on aurait dit qu'ils étaient au 14 juillet.
Et vous ?
Moi, j'ai été scandalisée de voir les gens juchés sur les tombeaux comme voilà. Ça, des gens qui fumaient des cigarettes. Et le service d'ordre a été très mal fait.
Moi, nous avons vu une petite vieille qui s'est évanouie, puis une jeune fille qui a eu la main écrasée.
Des obsèques, tout le monde devrait être ému et silencieux. C'est tout le contraire. Pendant un moment, on aurait dit la foire.
Si vous voulez bien écouter, je vais chanter un chant d'amour. Un chant d'amour banal à souhait pour deux amants qui s'adoraient. Si vous me laissez raconter l'histoire d'amour belle à rêver, laissez raconter, je vais pleurer leur chant d'amour, car hélas on a séparé nos deux amants, nos fous d'amour, ils en sont morts d'un même chagrin. Je ne peux chanter le chagrin. Alors, laissez-moi pleurer.
Un extrait du Chant d'amour, la dernière chanson écrite par Édith Piaf sur une musique de Charles Dumont.
Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
En juin 1963, Le prince Charles a 14 ans et il est en pension à Gardenstone, dans le nord de l'Écosse. Et c'est là qu'il commet un acte hautement répréhensible, qui met bientôt en émoi le peuple britannique et qui menace l'héritier du trône de lourdes sanctions.
Son crime, avoir vidé d'un coup d'un seul un verre de brandy dans un bar d'un hôtel de Stonehouse. Avec trois de ses camarades, Charles, après une rude journée d'exercice à bord du yacht école, était venu tirer sa bordée en ville. Au moment du dîner, Charles n'était pas à table. Le détective Green, son ange gardien, parcourut l'hôtel et vit, ô horreur, Charles accoudé au bar, un verre vide à la main, bref, ayant contrevenu à la loi interdisant aux mineurs l'absorption de boissons alcooliques.
Pris sur le fait par Donald Green, le détective royal, celui-ci décide d'infliger une sanction immédiate au prince héritier.
Comme première sanction, il lui infligea de manger jusqu'au bout la triste pitance de l'hôtel. Œuf bouilli, pomme de terre bouillie, chou de Bruxelles bouilli, tout bouilli.
Dans le même temps, Donald Green essaye d'étouffer l'affaire. Malheureusement pour lui, la rumeur fait son chemin et au palais de Buckingham, on n'a pas d'autre choix que de sévir.
Charles sera donc puni. Mais quel sera son châtiment? Normalement, la punition devrait être 6 coups de canne sur le postérieur. Mais à Gardenstone, son école, on est progressif. Ce sera donc la marche forcée avec méditation ou bien la perte de certains privilèges. Peut-être le palais assistera-t-il discrètement pour la correction. Une bonne fessée, voilà qui rapproche les Anglais de bonne souche. Voilà qui associera plus étroitement le futur roi d'Angleterre à tous ces sujets qui ont vécu cette expérience. Dès ce soir, on peut même déceler une sorte de fierté nationale devant l'incartade du prince, qui, loin d'être un fils à sa maman, paraît vouloir suivre les exemples glorieux de l'oncle Édouard et d'un autre Édouard, l'arrière-arrière-grand-père, qui commencèrent très jeune dans l'extravagance.
En cette même année 1963, l'alcool, autant vous le dire, n'est pas prohibé en Bourgogne. Et c'est là que certains ont l'idée d'enfermer dans une cave pendant 37 ans 2000 bouteilles de Côte de Beaune, millésimée 1959.
Les bouteilles sont placées derrière d'énormes grilles qui vont être scellées par M. le chanoine Kir, doyen de l'Assemblée nationale.
Les trois clés fermant ce caveau ont été déposées, la première à l'hôtel de ville de Beaune, la deuxième aux hospices de Beaune, la troisième à la direction de la maison patriarche père et fils.
Monsieur le député maire, qu'est-ce que vous pensez de cette cérémonie dans la cave avec les grilles fermées pour jusqu'à l'an 2000?
Eh bien, je pense une chose, c'est que, étant de service pour la fermeture des grilles, je ne serai pas là pour l'ouverture en l'an 2000.
Eh oui, dans 37 ans, c'est l'an 2000. C'est André Boisseau de la maison patriarche qui a eu cette idée.
Monsieur Boisseau, qu'est-ce qui vous a donné cette idée de faire ce dépôt de 2000 bouteilles pour l'an 2000?
J'ai pensé à ça. Le matin, quelquefois, on a des idées comme ça. Et puis, je me suis dit tout de même, on parle toujours de cet an 2000, de cette année extraordinaire que ça, l'an 2000, ou ce sera une année sensationnelle, ou ce sera plus rien du tout. Nous avons des grands vins, des très grands vins, de l'année 1959. Cette année 1959 qui est considérée tout de même comme l'année du siècle. Pourquoi ? On ne les conserverait pas jusqu'à l'an 2000.
Mais on a également scellé dans ce caveau un coffret de bois avec trois serrures. Et que contient-il?
Il contient tout ce qui a trait à aujourd'hui, c'est-à-dire des photos de la semaine, des journaux d'aujourd'hui, et puis il contient mon secret.
Il y a donc un secret dans ce coffret?
C'est un secret, je ne peux pas vous le dire.
Mais alors, pour le savoir...
Bah, écoutez, vous n'avez qu'à attendre l'an 2000 et être là. Moi, j'espère bien que j'y serai aussi, bien que j'aurai 91 ans.
Et les vins?
Eh bien, je suis persuadé qu'ils sont excellents.
Malheureusement, André Boisseau ne sera plus là en 2000. Pour ouvrir le caveau, c'est son fils, Jacques, qui s'en chargera.
Donne-moi ma chance, donne-moi ma chance encore. Quoi que tu penses, je n'ai pas tous les torts. Ne me dis pas que c'est trop tard. seul regard. Donne-moi ma chance, donne-moi ma chance encore. Par ton silence, tu parais la plus forte. Mais tu sais bien que toi et moi, on ne peut pas se séparer comme ça. Donne-moi ma chance, donne-moi ma chance encore. Donne-moi ma chance.
C'était Richard Anthony avec « Donne-moi ma chance » en 1963.
Ondelat raconte, Christophe Ondelat.
En 1963, Dalida est une habituée d'Europe numéro 1. C'est sur cette station qu'elle a démarré et depuis elle ne refuse jamais une invitation. Au point même de se plier de bonne grâce à toutes les expériences qu'on lui propose. Comme cette année-là, le jeu des gages, présenté par Michel Cogonnet.
Parce que voilà, oui. J'ai posé à Dalida des questions très indiscrètes, enfin, que je trouve indiscrètes par rapport à une interview normale, et où tu réponds, ou tu ne réponds pas.
Et alors, si je réponds pas ?
Alors, si tu réponds pas, tu auras un gage. On a quelques gages, tu les tireras, tu vois, il y a un petit chapeau, là, chapeau d'un camarade à nous, et... Tu vas tirer un petit papier, puis tu auras un gage, tu le liras toi-même à nos amis, et tu devras essayer, du moins, de satisfaire à ce gage. Ça te va, hein ?
Oui.
Le jeu débute par une question sans grand danger. Elle porte sur sa carrière.
Est-ce que tu veux répondre d'abord ? Tu réponds ou c'est un gage ?
Oh, je peux très bien répondre, bien sûr. D'ailleurs, ma carrière, c'est une chose publique, tout le monde la connaît. Donc, je peux très bien répondre à cette question. Une carrière, mon Dieu, ça fait déjà presque 7 ans que je chante, alors il y a eu des hauts et des bas. Mais je pense que avec des hauts et des bas, ben, ça va bien quand même.
T'es en haut ou en bas ?
Actuellement ?
Oui.
Ben, je ne sais pas, il faudrait le demander.
De toute façon, tu vas avoir un gage si tu réponds pas.
Non, je pense
d'après
que
toi.
Ça va bien. Non, je pense que ça va.
La deuxième question est plus délicate. Elle porte sur ce que Dalida gagne en un an.
Combien d'argent gagnes-tu par an ?
Oh. Combien gagne ? Combien
oui, non,
je
mais
gagne
t'as très bien compris, tout ça, c'est pas la peine de...
Oui,
attention,
mais...
c'est la réponse ou le gage, hein ?
Non, je pense que je ne pourrais pas te répondre parce que je ne veux pas avoir des histoires avec mon percepteur, alors je ne réponds pas.
Tu vas avoir un gage ?
Eh bien, je joue, donc c'est le jeu. J'aurai un gage.
Ça va aller en... Tu sais, les gages vont aller en difficulté croissante.
C'est-à-dire, tu vas commencer gentiment et ensuite...
Tiens, voilà, tu vas parler d'une chose dont j'ai très envie de parler...
Oui.
Et tu vas le dire à nos amis à ma place, si tu veux. Il s'agit de parler de Dodi.
De Dodi.
Vas-y. Premier gage, Dalida.
Dorloté, bien nourri, choyé. Oui, bébé a tout pour être heureux. Tout à condition que vous preniez grand soin de lui éviter certaines rougeurs vite apparues sur son épiderme si fragile.
Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Adoptez donc le lait de toilette Dodi pour la toilette de bébé et vous serez tranquille.
Pour son premier gage, Dalida s'en sort plutôt bien. Mais les questions posées par Michel Cogoni, le maître du jeu, s'avèrent de plus en plus chatouilleuses. Cette fois, l'animateur n'hésite pas à lui poser une question sur le programmateur musical d'Europe numéro 1, Lucien Maurice. Dalida et lui viennent tout juste de se séparer.
Tu veux répondre à une autre question encore ? Allons-y, tenez, repartons sec là. Tu veux que je te la pose ? Très
oui.
Souvent demandé sur les lettres. Sans Lucien Maurice, serais-tu devenu une vedette de la chanson ?
Oui, je pense que je peux répondre à cette question.
Pas de gage ?
Je ne pense pas, enfin, on verra bien si je réponds bien ou pas. Non, mais du moment que je réponds, donc il n'y a pas de gage.
Non, ça dépend comment tu réponds, je te le dirai. Vas-y.
Lucien Maurice a fait énormément pour moi, c'est lui qui m'a découvert, il m'a donné des conseils et tout. Et je pense que sans lui, ce n'est pas que je ne serais pas devenue vedette, je pense que je serais devenue vedette quand même, mais ça aurait mis un peu plus de temps. Voilà, je crois.
Réponse valable.
Dalida se prête volontiers au jeu et cumule pour l'instant peu de gages. Pourtant, la station a déployé les grands moyens pour varier les plaisirs. L'animateur et son invité peuvent même sortir des studios, ce qui se produit à la question suivante.
Es-tu amoureuse en ce moment ?
Ah, tu l'as bien choisi ta question. Je ne réponds pas.
Tu ne réponds pas?
Non.
Bon, mets ton manteau.
Mets ton manteau, on s'en va.
On va. Tu sais quel est le gage qui t'attend? Vas-y, mets ton manteau, range ta brosse à cheveux et tout. Vas-y, je vais t'expliquer pendant ce temps-là. T'as pas le temps de te coiffer, je te signale. Dépêche-toi. Non, mets ton manteau, voilà. Nous allons emmener Dalida en voiture autoradio, je vous tiendrai au courant, au drugstore des Champs-Élysées. Je vais la placer au stand de la vente de disques et je la mets en demeure de vendre 5 disques en 5 minutes par tous les mois. D'elle, attention, hein. Sinon ce serait facile.
10 minutes plus tard, Dalida, accompagnée par l'équipe d'Europe numéro 1, est au drugstore des Champs-Élysées, situé à quelques pas des locaux de la radio.
Eh bien voilà, nous sommes maintenant au drugstore des Champs-Élysées, nous sommes au stand disque très exactement, et on a pris un petit peu pendant quelques secondes la place de la disquaire qui est charmante, qui s'appelle de son prénom...
Daniel.
Approchez-vous, Daniel. Voilà. Je vous demandais simplement de vous faire remplacer, ça vous arrive de temps en temps,
oui,
par Dalida quelques secondes et de l'aider également, étant donné que la comptabilité n'est pas sans fort, à essayer de vendre ces 5 disques. Alors maintenant, tu as le micro, Dalida, voilà, nous sommes là aux Champs-Élysées. Tu vas vendre 5 disques de Dalida, vas-y.
D'accord, mais moi je vais essayer de vendre, mais vous allez faire la comptabilité. Hein. D'accord. Elle est très gentille, elle va m'aider. Mais voilà.
Quoi, voilà.
Mais ça y est, j'ai un disque de vendu déjà.
C'est vrai?
Oui, oui.
Si vous achetez un disque?
Oui, bien sûr, oui.
Bon, vous l'achetez comme ça par hasard ou vous veniez pour ça?
Pas par hasard, non. J'écoutais l'émission dans ma voiture et j'ai couru.
Mais vous avez bien fait, voilà.
J'ai mis moins de temps pour venir du pont de Suresnes que de la rue François 1er.
En quelques minutes, le drugstore est pris d'assaut et Dalida remporte son gage haut la main. Et la question suivante ne tarde pas à tomber.
Je vais te poser une question, Dalida. Oui. Tu veux bien? Toujours en voiture, hein, là, oui. En direct. Bon, crois-tu, c'est sérieux, hein, crois-tu que tu as raté, au point où tu en es, ta vie sentimentale?
Mais écoute, tu es méchant, Michel.
Comment méchant? Je te demande.
Parce que tu me poses des questions, je ne peux pas répondre. Je suis désolée, mais je ne peux pas répondre.
Tu ne peux pas répondre?
Mais oui, je sais. Bon, j'aurais un autre gage, tant pis pour moi, mais tu me poses des questions.
Je ne sais pas si ça sera le dernier, d'ailleurs, en principe, mais... Tu sais ce qu'on va faire? On va attendre, je parle à notre ami... Tu vois où est l'Olympia? Je parle à notre ami chauffeur, là. Hein.
Oui, tout de suite à gauche. Là.
Tout de suite à gauche. Alors, on va à l'Olympia, on passe par la rue Comartin.
Et voilà donc Dalida en route pour le quartier de l'Opéra et de la salle mythique de l'Olympia. Et son gage? Le voici.
Bon, je ne t'ai pas encore annoncé, Dalida, ce que tu avais à faire ici à l'Olympia.
Non,
je te signale
inquiète,
que tu connais Roger Comte,
oui,
qui présente le programme. Et ben, tu vas aller en scène avec lui. Quand Vassili va passer, c'est-à-dire dans quelques instants, tu vas me faire le plaisir d'aller présenter devant tous ces gens de l'Olympia qui ne sont absolument pas au courant, d'aller présenter Vassili avec Roger.
Sitôt dit, sitôt fait, 5 minutes plus tard, Dalida fait son entrée sur la scène de l'Olympia devant des spectateurs interloqués.
Allez, on ne peut pas marcher au plafond, mais je disais plus de bonne femme, je vous en prie, Dalida. Alors là, c'était une surprise, vous voyez. Écoutez.
Et voilà.
Écoutez. Non. Ah, t'es gentil de...
Vous êtes en direct depuis l'Olympia.
Oui, non, mais c'est-à-dire, je vais vous expliquer ça, c'est parce que je suis en direct sur Europe numéro 1, il y a un jeu, j'ai perdu, alors j'avais un gage, je devais venir à l'Olympia présenter le programme. Alors c'est pour ça que je suis là et je vous présente Pierre Vassiliou.
Oh, elle est formidable, alors. Elle n'a pas peur, hein.
Et voilà. Ça s'est bien passé, Dalida, explique-moi.
Oh ben, tu as dû entendre.
Ouais, ouais, ouais. On écoute Pierre un petit peu maintenant. Voilà, et bien mes enfants, voilà, c'est terminé. C'était le dernier gage de Dalida. On va la laisser un petit peu se reposer maintenant.
On a fait notre petite promenade dans Paris. On a joué au jeu de la vérité. Tu as eu tes gages, tu les as remplis. J'espère simplement que les amis qui nous ont écoutés pourront être amusés, distraits, émus, intéressés par ce qu'on a fait ce soir. On pourra le refaire si tu veux. Hein?
Oh, mais pas...
Fatigant?
Enfin.
Bon, alors on va se casser une croûte maintenant. Il est 10h, c'était dans le vent. Bonsoir, à demain.
Il y a tant de joie dans leur moindre sourire qu'à les regarder vivre. Je n'ai peur pour eux. Dans leur inconscience, c'est leur insolence qui parle pour eux. Eux, dans leur innocence, ils ont l'indécence des gens trop heureux. Eux, les regarder vivre, c'est ouvrir un livre
où tout serait bleu. Eux, c'est une légende qui ferait offrande de sa vie pour eux. En les regardant dans un amour si grand, j'en ai le cœur qui pleure un triste adieu. Ma pensée s'égare par un simple regard, car cet amour je l'ai connu comme eux. Dans leur inconscience, m'impose en silence un rêve évanoui. Eux, dans leur innocence, ranime la danse d'un bonheur enfoui. Eux, les regarder vivre, c'est pour moi revivre des jours délirants. Eux, refont la légende qui m'a fait l'offrande d'un bonheur trop grand. En les regardant dans un amour si grand, j'en ai le cœur qui pleure un triste adieu. Ma pensée s'égare par un simple regard, car cet amour je l'ai connu comme eux.
C'était Dalida avec eux en 1963, magnifique chanson écrite par Daniel Gérard et Pierre Barou. La suite de notre exploration de l'année 1963 dans le quatrième épisode.
Retrouvez On de la Traconte du lundi au vendredi sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.